Chapitre 5 Éclat de rire de jeune fille. Il était à peu près 8 heures du matin, et bien qu'on ne fût encore qu'à la fin du mois de février, l'aurore promettait cependant à la province de Canton une de ces belles et tièdes journées de printemps qui font du sud de la Chine une des contrées bénies du ciel. Le soleil allait chercher la svelte pagode de Wanpoa au milieu des palmiers gigantesques qui l'enveloppaient de leurs ombres mystérieuses. Il endorait, de ses premiers rayons, les 10 toits de porcelaine émaillée et les gonds de bronze, résonnant sous les coups répétés des prêtres vêtus de longues robes jaunes, appelaient les fidèles à la prière du matin. Le fleuve des perles, dont les rives étaient noyées dans un brouillard opaque, au-dessus duquel les collines voisines apparaissaient comme des îles flottantes, se peuplait de 1000 embarcations diverses, depuis le léger sampan jusqu'à la lourde jonque, et les flots argentés en reflétaient les formes bizarres et les avants aux figures grimaçantes. Les rizières étendaient à perte de vue leur mouvant tapis d'émeraude, d'où s'échappait, réveillé par les chants des matelots, tout un monde ailé, gazouillant et chantant. Et la gamie, car c'est un oiseau qui, dans l'empire du milieu, est le gardien des basses-cours, levait au-dessus des roseaux sa tête intelligente pour surveiller les canards qui lui étaient confiés et que les canons des forêts de Boca Tigris, en saluant l'arrivée de quelques navires étrangers, effrayaient par leurs détonations successives. Sur terre aussi, les populations s'éveillaient, joyeuses et affairées. Entre autres, la petite ville de Funxi, située sur la rivière droite du fleuve, offrait déjà, malgré l'heure matinale, le plus pittoresque aspect. Dans la rue des Batteurs d'Or, surtout, la foule était hurlante et animée. Les porteurs d'eau, nus jusqu'à la ceinture, soutenaient leurs pesants fardeaux aux extrémités d'un long bambou en équilibre sur l'épaule et se faisaient place en jetant leurs cris rauques. Les barbiers s'installaient devant leurs portes, disputant la rue aux médecins en plein vent, aux 10 heures de Bonaventure, aux quarts d'heure, aux emballeurs de laine et aux lamineurs d'étoffes. Les changeurs préparaient leurs petites romaines d'ivoire pour percer les lingots et leurs poinçons pour marquer les piastres. Les boutiquiers se tenaient sur le seuil de leurs portes, prêts à lutter de zèle, de coups d'œil séducteurs et d'appels pleins de promesses pour attirer les chalands. C'était encore, au milieu de la foule, des bonzes chaussés de hautes babouches blanches qui se rendaient d'un pas lent et grave au temple de Faux, puis tout à coup les rangs pressés du peuple s'ouvraient devant les coureurs du mandarin de police, dont les coups de fouet écartaient brutalement les curieux. Les marchands de comestibles, enfin, paraient leurs denrées. Là, des montagnes d'oranges et de bananes, plus loin des nids d'hirondelles des îles Ladrones, et des ailerons de requins du golfe de Bengale, ici des pâtés de radeaux à la croûte dorée, et à côté des rangées de petits chiens farcis pour la table des gourmets. Sur le devant de l'une de ces boutiques, on voyait, bras nus et le nez au vent, un grand diable du plus étrange aspect, grâce aussi bien à l'expression générale de sa physionomie qu'à sa construction bizarre. C'était Tchou, le boucher. Ses longs bras osseux et ses interminables jambes, d'une extrême maigreur, semblaient attacher qu'ils étaient à un torse épais et court fortement charpenté, les membres d'un squelette géant, soudés au tronc d'un magot. De plus, son visage rubicon était éclairé par 2 gros yeux à fleur de tête, et ses lèvres grimaçaient un perpétuel sourire ironique. Tout cet ensemble grotesque faisait la joie et aussi la terreur des gamins du quartier et des cuisinières qui fréquentaient le magasin de Tchou. On l'avait surnommé l'araignée rouge. Le fait est que, lorsqu'il allongeait ses bras attachés de sang pour saisir une pièce de viande, il ressemblait plutôt à quelque monstrueux faucheur s'élançant sur sa proie qu'à un honnête débitant servant ses pratiques. Mais le boucher de la rue des Batteurs d'Or ne se fâchait pas du sobriquet qu'on lui donnait. Il en riait tout le premier, en montrant deux rangées de dents blanches et aiguisées à rendre jaloux un carnassier, et quand il avait affaire à une jolie cliente, ce qui lui arrivait souvent, sa boutique était un des mieux achalandés de la ville. Il ne répondait à ses plaisanteries que par quelques ripostes grivoises. Car Tchou était galant, tenait à plaire et ne manquait pas d'une certaine coquetterie. Le front rasé de frais tous les 10 jours, ainsi que le veut la coutume, sa natte de cheveux noirs n'était roulée autour de sa tête que pendant les heures de travail. Dès qu'il avait fini son ouvrage, il ornait cette natte d'un ruban de soie et la laissait pendre également sur sa longue échine. Enfin, comme tout Chinois qui se respecte, il n'aurait jamais fait un pas hors de chez lui sans sa pipe, son parasol et son éventail. Les grands plaisirs que s'accordait notre personnage, une fois son magasin fermé, étaient une partie de cartes ou une pipe d'opium dans quelques maisons de thé, les cafés de la Chine, et les représentations dramatiques que la troupe de Canton venait donner de temps à autre sur le théâtre de bambou qu'on élevait dans certaines circonstances solennelles au milieu de la grande place de Fun-Si. Chu était, on le voit, un marchand à peu près semblable à tous les autres, et comme il ne se servait pas de faux pois, vendait des viandes de bonne qualité et ne refusait jamais ni une tasse de thé ni un sapec, petite pièce d'or d'un demi-centime, à un pauvre, il jouissait d'une certaine considération. Malgré son aspect étrange et son air rébarbatif, il passait même pour un assez brave homme. Chou était donc sur le pas de sa porte depuis quelques instants déjà, lorsque son attention fut détournée de la foule par le bruit d'un grillage qui venait de tourner sur ses gonds, au premier étage de la maison faisant face à la sienne. Les gros yeux du boucher s'ouvrirent plus démesurément que jamais, et son visage refléta aussitôt la plus vive admiration. Le spectacle qui lui était offert était bien de nature, en effet, à charmer, à séduire même le cœur le plus insensible. Persuadé, peut-être, que les fleurs au milieu desquelles elle venait d'apparaître la dérobait suffisamment à l'indiscrétion des passants, une jolie fillette d'une quinzaine d'années montrait sa tête mutine à travers les roses et les hortensias qui ornaient sa fenêtre, et elle se préparait, pensant que personne ne l'observait, à donner des soins de chaque matin à ses plantes bien-aimées. Le coup d'œil curieux qu'elle jeta d'abord dans la rue ne s'arrêta pas sur Tchou, mais lui la dévorait du regard. Même pour la clientèle d'un mandarin à boutons d'or, il n'aurait pas détourné les yeux. C'est que sa voisine était vraiment charmante dans son cadre de fleurs et de verdure. On eût dit qu'un lettré avait tracé d'un seul coup de pinceau trempé dans l'encre de Chine les sourcils qui décrivaient un arc gracieux au-dessus de ses grands yeux de gazelle. Ses joues étaient rosées et veloutées comme la fleur du camélia, et on ne pouvait distinguer ses lèvres carminées des boutons rouges du lianva sur lequel elle se penchait. Ses beaux cheveux noirs étaient séparés en deux tresses épaisses qui, tombant sur ses épaules, disaient qu'elle était jeune fille, car dans la province de Canton, les femmes mariées seules ont le droit de porter les cheveux en échafaudage, et semées d'ornements. Enfin, ces petites mains effilées, qui maniaient un léger arrosoir de porcelaine émaillée, se terminaient par des ongles ovales et brillants, qu'on eût dit autant de feuilles de rose. C'est tout ce que Tchou pouvait découvrir des beautés de la ravissante enfant, mais cela suffisait pour le plonger dans une véritable extase, et il n'en suivait que plus attentivement ses moindres mouvements, lorsqu'une goutte d'eau, destinée à l'une des fleurs du parterre aérien, mais enlevée par le vent, vint lui tomber dans l'œil droit et le força à baisser brusquement la tête. Presque aussitôt, un joyeux éclat de rire retentit et le boutiquier releva vivement les yeux. Mais, si rapide qu'eût été son mouvement, c'est à peine s'il put saisir au passage le dernier sourire moqueur de l'adorable fillette. Le chat si grillé s'était refermé. La féerique apparition avait disparu. Seulement, elle avait emporté le cœur de l'inflammable boucher. C'en était fait, Tchou était amoureux. Après quelques minutes d'attente inutile, il rentra dans son magasin où, ce jour-là, il se laissa plaisanter plus que jamais par ses clientes. Elles eurent beau l'appeler l'araignée rouge, il ne sourcilla pas. Mais l'heure réglementaire sonnait, sans s'occuper des retardataires, il ferma sa porte et on le vit se venir à grands pas vers les rives du fleuve des perles. Chapitre 6. Les amours de Tchou. Le lendemain matin, le boucher de la rue des Batteurs d'Or ouvrit son magasin comme d'habitude, c'est-à-dire au lever du soleil, et il se mit en mesure de servir ses nombreuses pratiques avec son empressement ordinaire. Cependant, plusieurs d'entre elles furent obligées de lui adresser deux fois la même demande, ce qui, de mémoire de cuisinière, n'était jamais arrivé. Évidemment, Tchou était distrait. Tout en vaquant à ses occupations, il jetait fréquemment des regards furtifs, non pas seulement sur la fenêtre où la jeune fille lui avait apparu la veille, mais aussi sur la porte de sa maison. On eût dit qu'il y guettait la sortie de quelqu'un. C'est que, depuis 24 heures, l'araignée rouge avait pris ses renseignements et commencé à tisser sa toile. L'amoureux marchand avait appris que sa jolie voisine s'appelait Liu Xiu, en français « saule brodée », et qu'elle vivait seule avec sa mère, dont elle était l'enfant unique. Si jusqu'à ce jour il n'avait rien su de tout cela, c'est que le père de Liu Xiu était mort depuis plusieurs années, et qu'en Chine, les femmes sortent fort rarement de chez elles. Il n'avait donc jamais eu l'occasion de voir ni de rencontrer celle qui maintenant l'intéressait si vivement. Il savait de plus qu'une jeune fille, qu'il avait souvent remarquée parmi ses clientes, était à leur service, et c'était cette domestique qu'il attendait avec impatience, décidée à acheter à tout prix ses beaux offices. Le pauvre diable s'imaginait tout simplement que Liu Xiu l'avait remarqué. Dans sa grotesque fatuité, il avait pris le petit accident, la goutte d'eau de la veille, pour une provocation, et il s'était dit que le moins qu'il devait faire était de déclarer son amour sans plus tarder. Pour arriver à ce résultat, il avait écrit sur du superbe papier rose une lettre brûlante que ses rêveries le long des rives du fleuve des Perles lui avaient inspirée, et il voulait la faire parvenir à son adresse. On voit que notre héros avait d'excellentes raisons pour être préoccupé. Il commençait même à se désespérer lorsque tout à coup, au moment où il venait de se poster pour la 10e fois peut-être sur le seuil de sa boutique, la porte qui lui faisait face s'ouvrit enfin pour livrer passage à la servante attendue. C'était une femme de 18 à 20 ans, vive et rieuse, comme le sont en Chine toutes les filles du peuple auxquelles la coutume laisse la plus grande liberté. En la voyant, Chou se souvint qu'on la nommait Mekui, c'est-à-dire rose, et il ne douta pas un instant de la facilité qu'il aurait à la mettre dans ses intérêts. Il l'avait appelée, elle s'était empressée de traverser la rue, et lorsqu'il l'engagea, avec toute la grâce dont il était capable, à faire immédiatement ses achats, elle le suivit sans hésitation dans le fond de son magasin. « Écoute, lui dit-il aussitôt, car il voulait profiter de ce qu'il était seul avec elle, tu es au service de Madame Liu Xiu ?»« Oui, répondit Mekui, assez surpris de cette question, car elle s'attendait plutôt à quelques-uns de ces compliments dont le boucher était coutumier. « Madame Liu a une fille, poursuivit Chou, sans paraître s'apercevoir de l'étonnement de Rose. « Une fille jeune et jolie. »« Mais comment savez-vous cela ?» fit la servante au comble de la stupéfaction. « Je l'ai aperçue pendant qu'elle arrosait ses fleurs. Elle aussi m'a remarqué certainement, voilà, et j'en suis amoureux. »« Vous, amoureux ? Que vois-tu là d'étrange ?» En disant ces mots, il lui mit une piastre dans la main. « Oh, rien !» répondit Mekui, en soupesant la pièce de monnaie qui représentait pour elle un mois de travail. Pourquoi pas après tout ? Veux-tu me servir ? Oh, de carriage, je n'ai que de bonnes intentions. Mon seul désir est d'épouser ton adorable maîtresse. Elle se nomme Liu Xiu. Oui ? Eh bien, charge-toi de remettre à la charmante Liu Xiu cette lettre. « Tu pourras compter sur toute ma reconnaissance. » Il tendait sa fameuse épître amoureuse à la jeune fille, mais celle-ci fit un pas en arrière avec un geste d'épouvante. « Tu veux pas ? » demanda-t-il en se rapprochant d'elle. « Serait-elle fiancée ? » ?»« Oh non, balbutia Rose, mais ce que vous me demandez là est bien grave. »« Puisque je veux l'épouser... » « Je suis riche, de plus je suis sûr que je lui déplais pas. On a déjà plusieurs jours que nous échangeons des regards. » Nous savons qu'il mentait, mais il voulait absolument réussir. « Ah, c'est différent alors, » dit Mekui, en étouffant un éclat de rire et en éteignant son regard moqueur. « Alors soit, confiez-moi votre lettre, je la remettrai à Mademoiselle Liu. » Et enlevant lestement le billet des mains de Chou, elle le glissa dans son sein. « Quand ?»« Le plus tôt possible, mais il faut être patient. Vous comprenez que je ne puis pas donner brusquement cette lettre à mademoiselle. Il faut d'abord que je lui parle un peu de vous. »«
Oui, c'est vrai, enfin agis pour le mieux, à un temps d'obtenir d'elle une réponse. »
Cela dit, il fut obligé de se taire, car plusieurs personnes venaient d'entrer chez lui et il devait les servir. Rose en profita pour s'esquiver. Mais le lendemain et les jours suivants, elle ne manqua pas de venir chaque matin chez Chou. Seulement, soit par le fait du hasard, soit parce que la rusée servante préférait qu'il en fût ainsi, elle arrivait toujours au moment où il y avait du monde. Le pauvre diable avait beau tenter de la retenir, elle ne lui répondait jamais, comme étant un doigt sur ses lèvres, et, ses provisions faites, elle s'échappait sans pitié. Les choses durèrent ainsi toute une semaine, et notre héros, ne sachant à quoi s'en tenir, commençait à perdre la tête, car son amour croissait en raison directe de ses incertitudes, lorsqu'un jour enfin, cédant à ses regards suppliants, Mekui resta la dernière dans le magasin. « Eh bien, lui demanda-t-il vivement, as-tu remis ma lettre ?»«
Oui, fit-elle, mais je vous assure que ça n'a pas été sans peine. »
Il comprit et courut à son comptoir pour y prendre une poignée de monnaie qu'il glissa dans la main de la jeune fille en disant « Et qu'a répondu ta maîtresse ?»
D'abord, elle s'est fâchée et m'a rendu votre billet, en me menaçant de tout raconter à sa mère. Mais je l'ai priée de ne rien faire. Je lui ai dit que vous l'aimiez, plus encore que vous ne pouviez le lui exprimer, que vous étiez riche, généreux, et que vous vouliez l'épouser. Alors, murmura Tchou, dont les regards étincelaient de désir et que l'émotion faisait trembler. Alors, mademoiselle Liu a lu votre lettre, a rougi et s'est approchée de la fenêtre, sans doute pour vous examiner à travers le grillage. Puis elle est revenue vers moi, m'a rendu votre déclaration, afin que sa mère ne pût la trouver, et s'est jetée dans mes bras. Après, ma petite Rose, après. Après, il n'y a plus rien. Cela se passait avant-hier. Depuis, il n'a plus été question de vous. Madame Liu est presque toujours auprès de sa fille, alors c'est seulement par hasard que je puis me trouver seul avec elle. Me répondra-t-elle? Ah, cela je l'ignore. Ce que je sais bien, par exemple, c'est que maintenant, elle est souvent cachée derrière ses fleurs. Bien vrai, alors je puis donc la demander en mariage. Comme vous y allez? Ne faites pas cela, vous perdriez tout. Je vous ai dit qu'il fallait de la patience. Si vous n'en avez pas davantage, je vous abandonne. Ah non, non, tu ne feras pas cela. Puisque tu le veux, bon, je ne bougerai pas, je suivrai tes conseils. Mais obtiens au moins de ton adorable maîtresse quelques mots pour moi. J'essaierai, quoique je doute de réussir. Vous comprenez qu'une jeune personne bien élevée ne peut guère écrire à un étranger. Le jour où tu m'apporteras seulement deux lignes d'elle, tu pourras choisir chez mon voisin Chiot le bijoutier et le plus beau bracelet de jade de tout son magasin. Bon, je verrai. En attendant, pas un mot, pas un geste. Pour commencer, taisez-vous. Plusieurs clients de Tchou venaient en effet d'arriver. En l'apercevant en conversation avec sa voisine, ils se mirent à les plaisanter tous deux. Mais le boucher était devenu invulnérable. Il ne répondit au quolibet qu'avec son gros rire habituel et en se frottant les mains. Quant à Rose, dont la vertu ne s'effarouchait pas pour si peu, elle affecta néanmoins d'être embarrassée et se sauva en rougissant. Chapitre 7. Où Tchou lit une affiche qui lui fait perdre la tête. Cependant, les jours se succédaient sans que les affaires de Tchou avançassent d'un seul pas. Rose venait presque tous les matins, mais ce n'était que pour lui répéter à peu près les mêmes phrases. Madame Liu surveillait sa fille, et celle-ci ne voulait pas se prononcer. Il fallait de la patience, le moment n'était pas venu, enfin mille autres choses semblables qui le désolaient. Le pauvre garçon n'avait plus un instant de repos. Il maigrissait à vue d'œil, et quelques efforts qu'il fit pour paraître calme, ses clients et surtout ses clientes, pour lesquels il n'avait plus ses amabilités d'autrefois, commençaient à s'apercevoir des changements qui se faisaient en lui. Pendant la vente, il était distrait et, sa besogne terminée, il s'accroupissait derrière un des volets entrebâillés de son magasin pour rester là des heures entières, ne quittant pas des yeux la fenêtre de sa bien-aimée, tressaillant au moindre frémissement des fleurs qui l'ornaient, s'imaginant à chaque instant qu'elle allait apparaître au milieu de son cadre parfumé pour lui sourire, se montant la tête enfin comme un amoureux qui se croit adoré. Sa campagne d'observation fut tout d'abord des plus malheureuses, car un beau jour, au moment où il s'y attendait le moins, il vit un jeune homme qui lui était inconnu frapper à la porte de Madame Liu, et lorsque Rose lui ouvrit, il remarqua avec terreur qu'elle lui faisait un accueil amical. Le lendemain, quand l'étranger se présenta une seconde fois, la servante l'introduisit avec le même empressement, et Tchou sentit que la jalousie le mordait au cœur. Pour lui, le nouveau venu ne pouvait être qu'un prétendant dangereux, puisqu'il lui était permis de pénétrer dans la place qui lui était fermée. Mais Rose eut facilement raison de ses craintes. Elle lui affirma que celui qu'il prenait pour un rival était un neveu de Madame Liu, qui ne pouvait guère songer à épouser sa fille, d'abord parce qu'il était sans fortune, ensuite parce qu'il avait l'intention de se faire prêtre à la pagode de Bouddha, où il était déjà professeur d'astronomie. La maligne créature ne manqua pas d'ajouter que Saul Brodé était loin d'ailleurs de trouver son cousin à son goût, et que seul Lui Chu avait attiré ses regards, et le boucher, complètement rassuré, revint alors tout entier à ses espérances. Une seule chose l'inquiétait au milieu de ses rêves de bonheur, c'était le silence de sa voisine. Il ne s'expliquait point qu'elle ne lui écrivît pas quelques lignes, qu'elle ne lui fît pas de sa fenêtre quelques signes d'amitié, qu'elle ne lui témoigna pas enfin, de quelque façon que ce fût, l'intérêt qu'elle lui portait. Oh, il était même décidé à s'en expliquer très sérieusement avec Mikui, lorsque celle-ci, qui semblait deviner toujours ses pensées, le prit à part un matin pour lui dire: Mademoiselle Liu ne peut pas vous écrire, mais ce soir, à 7 heures, au moment où résonneront les gonds du temple, passez lentement devant sa porte, et vous aurez de ses nouvelles. Et elle se sauva en faisant signe à Chu d'être fort prudent, le laissant fou de bonheur et d'espoir. Oh, ce jour-là, ses pratiques le retrouvèrent aimable et prévenant comme il était jadis. Seulement, il expédia son monde bien plus vite encore que de coutume, et il était 6 heures à peine que, rasé de frais et revêtu de ses habits de fête, il était déjà prêt à courir au rendez-vous. La grandeur qu'il dut attendre lui parut ne devoir jamais finir. Blotti derrière sa porte entr'ouverte, il guettait le moment favorable, maudissait les gens qui, allant et venant, menaçaient d'être pour lui un obstacle, et jurant que le sonneur du temple était en retard. Enfin la nuit se fit, avec elle la rue devint déserte, et Chu, jugeant que l'instant fortuné n'était pas éloigné, se glissa le long de la muraille pour se cacher dans l'ombre. Il était là depuis quelques minutes à peine, lorsque le premier coup de gong retentit. Alors il s'avança doucement, prêtant l'oreille, retenant son haleine, et au moment où, se trouvant exactement sous la fenêtre de Saul Brodé, il levait la tête, il sentit qu'il lui tombait sur le visage un objet léger dont il s'empara. Puis, ou bien qu'il fût absolument seul dans la rue, il s'enfuit en courant comme s'il eût commis un larcin. À 200 pas plus loin, il s'arrêta devant la porte d'un médecin, et à la lumière de la lanterne verte qui l'ornait, oui, en Chine, les médecins sont tenus d'éclairer leur demeure pendant toute la nuit, il put examiner le mystérieux envoi. Il se composait de 2 boutons de rose, l'un blanc, l'autre rouge, qui étaient liés ensemble par un ruban d'argent semblable à ceux que son adoré employait pour nouer les longues nattes de ses cheveux noirs. À cette vue, le romanesque boucher faillit perdre la raison. Pour lui, la réunion de ces 2 boutons de rose n'était rien moins qu'un emblème, tout un chaste aveu de la part de celle qu'il aimait, et de qui maintenant il était certain d'être aimé. Aussi s'empressa-t-il de rentrer chez lui, afin de rêver à son aise aux moyens qu'il devait employer pour se faire agréer par Madame Liu. Quand il s'endormit vers le milieu de la nuit, son plan était arrêté. Il était décidé à s'adresser dès le lendemain à la plus habile des matrones de la ville, à la Meijin connue pour réussir dans les entreprises conjugales les plus difficiles. Oui, c'est ainsi qu'on appelle là-bas les vieilles femmes qui s'occupent des préliminaires des mariages. Aucune union ne se fait sans leur intermédiaire. C'est seulement lorsque les Meijin ont fait accepter les conditions des prétendants par chacune des familles intéressées que ces familles échangent les premières visites. Tout le monde peut alors voir la jeune fille, sauf son fiancé, qui est obligé de s'en rapporter aux éloges de sa Meijin et aux affirmations de ses parents. Mais Chu n'avait pas besoin de voir Liu Xiu. Depuis longtemps, il connaissait son sourire, ses jolis yeux, et Rose n'avait pas omis de le lui dépeindre plus complètement encore. Il était donc plus avancé que bien d'autres, et les choses, selon lui, devaient marcher plus rapidement que de coutume, car il était prêt à sacrifier la moitié de son bien pour faire à celle qu'il appelait déjà sa fiancée des cadeaux dignes d'elle et de sa beauté. Tout plein de ses pensées, il ouvrit sa boutique au point du jour, n'ayant plus qu'un but, faire part de ses projets à Mekui et entrer immédiatement en campagne. Malheureusement, il attendit en vain la jeune servante. Elle ne vint pas, mais comme son parti était irrévocablement arrêté, une fois sa besogne terminée, il s'habilla. Sa toilette achevée, c'est-à-dire au bout de 20 minutes à peine, il redescendit tout joyeux et sauta dehors en tirant bruyamment sa porte derrière lui. Mais tout à coup, ses yeux devinrent hagards, et vacillant sur ses longues jambes, il recula jusqu'à la muraille pour y chercher un soutien. Bientôt, après avoir passé la main sur son front, comme pour se débarrasser de l'hallucination dont il se pensait le jouet, il traversa la rue d'un seul bond, et parvenu sur le seuil de la maison de Madame Liu, poussa un cri inarticulé. Il venait de lire, de chaque côté de l'entrée, l'affiche rouge que, pour obéir à la loi, on placarde sur toute demeure où se fait un mariage. D'abord, il ne voulut pas croire, et s'efforçant d'être calme, relut une seconde fois. Mais le doute n'était pas possible. Le nom de la fiancée, celui de l'époux, le jour de leur union, tout cela jaillissait de la muraille en lettres de feu. C'était bien Liu Xiu qui allait se marier avec un autre que lui, Chu, dont alors elle s'était moquée. Les yeux du désillusionné s'étaient injectés de sang, la tête lui tournait, ses lèvres murmuraient des mots inintelligibles. Soudain, une transformation étrange se fit dans sa physionomie. Il se redressa, jeta autour de lui un regard rapide et, s'apercevant que personne ne l'observait, il s'éloigna vivement. Puis, après avoir fait un détour, il rentra chez lui d'un air calme et comme s'il venait de sa promenade accoutumée. Mais, aussitôt seul, il donna un libre cours à sa colère. Et cette petite salle-basse, où nous avons déjà introduit nos lecteurs, devint le théâtre d'un spectacle hideux. Après s'être dépouillé de sa robe de fête, Chu avait armé sa main d'un large couteau de sa profession qui s'était plu à tremper dans le sang. Ce sang avait inondé son visage et maculé ses bras nus, et en proie à une exaltation furieuse, il tournait son arme menaçante du côté de la maison de celle qu'il accusait de l'avoir trompé. Ses regards étaient ceux d'un fou. Sa bouche écumait, il proférait les plus épouvantables blasphèmes et les plus terribles menaces. Oh, ce n'était plus Chu le grotesque, Chu l'amoureux, c'était le boucher brutal, l'horrible araignée rouge, ivre de vengeance et de sang. Cependant, il se calma peu à peu. Alors, s'affaissant sur un siège, il s'y accroupit, le menton dans ses mains sanglantes et les yeux à demi fermés. Chapitre 8. Derrière le rideau parfumé de saule brodée. Rose était loin, on le voit, d'avoir dit à Tchou toute la vérité. Dans la maison qui faisait face à la sienne, personne au contraire ne songeait à lui. Cette maison, dont deux ou trois fenêtres seulement donnaient sur la rue, ainsi qu'il est d'usage presque partout en Chine, était habitée par une femme jeune encore, bien qu'elle fût la mère de Liu Xiu. Son mari, mort depuis quelques années déjà, lui avait laissé une situation honorable, et puisque, dans l'empire du milieu, les honnêtes femmes ne se remarient jamais, Madame Liu s'était consacrée tout entière à l'éducation de son unique enfant. Elle en avait fait une jeune fille parfaite à tous égards. De ce côté, du moins, Rose n'avait rien exagéré. Saule Brodée était bien certainement la plus jolie vierge de toute la province. De plus, son caractère était charmant, et son esprit orné autant que le permettent les lois de ce pays, où les femmes sont condamnées, par mesure de prudence peut-être, à une ignorance relative. Pourvu qu'elles sachent lire, écrire, peindre et broder, on ne leur en demande pas davantage. Ce n'est pas sur les rives du fleuve des Perles qu'on songera de longtemps encore à transformer les fillettes en doctoresses. On préfère les élever de façon à ce qu'elles deviennent simplement de chastes épouses et de bonnes mères. Madame Liu vivait donc à peu près seule avec sa fille, car elle n'avait pas de parents dans la ville, sauf son neveu Yité, qu'elle aimait beaucoup et recevait toujours avec joie. Ce neveu était un beau garçon de 22 ans, orphelin depuis sa plus tendre enfance, et qui, se voyant sans fortune, s'était mis dans la tête de devenir un lettré, qualité qui, on le sait, conduit dans la contrée où nous sommes aux plus hautes fonctions. Grâce à sa tante, qui l'avait aidé dans ses études, il avait passé d'une façon si remarquable ses premiers examens que, malgré son jeune âge, il était déjà Liu Tsai, grade qui lui donnait le droit de porter le globule de cuivre. Ce premier succès lui permettait de professer l'astronomie à la pagode Mi. Seulement, tout en observant les étoiles, Ité n'était pas resté sans regarder aussi sur la terre autour de lui, et reçu chez la mère de Saule Brodée, dont l'intimité, il était tout naturellement devenu un bon cousin, amoureux de sa cousine. Mais Madame Liu s'aperçut en temps utile de cette passion naissante, et comme, avec un légitime orgueil maternel, elle rêvait pour sa fille un mariage plus brillant, elle signifia au pauvre Ité qu'il ne serait jamais son gendre. Le jeune homme se soumit respectueusement à cette décision qu'il savait sans appel. Pour vaincre son amour, il se remit au travail plus assidûment que jamais, et dès ce moment il ne sortit de la pagode qu'à de rares intervalles. Ce temple de Mi est un lieu de pèlerinage célèbre. On y accourt de toutes les extrémités de la province. Riches et pauvres y implorent Qin. Les premiers pour la continuation de leur bonheur, les autres pour la fin de leur misère. Un jour que le neveu de Madame Liu venait de terminer ses évotions et qu'il se retirait, il fut frappé, en passant devant l'autel, de la ferveur avec laquelle un étranger s'adressait à la divinité. L'inconnu était un personnage de distinction, cela se devinait à sa mise, et il priait à demi-voix, ce qui permit à Ité d'entendre qu'il suppliait Bouddha de lui faire trouver pour son fils une compagne digne de son alliance. Or, le mot mariage, en évoquant forcément dans l'esprit du lettré un souvenir douloureux, ramenait toujours sur ses lèvres un nom aimé, celui de Saul Brodé, de Saul Brodé dont il ne pouvait plus rêver de devenir l'époux, mais pour laquelle il voulait le bonheur. Alors, tout spontanément, avec cet héroïsme simple et vrai des cœurs dévoués, il s'adressa au pèlerin et, après l'avoir salué cérémonieusement, il lui dit « Seigneur, j'ai surpris votre prière. Chin, sans doute, voulait qu'il en fût ainsi, puisque je puis l'exaucer. » « Vous comment ?» demanda l'étranger, tout étonné et en examinant son interlocuteur avec curiosité. « Oui, moi-même. » Et après avoir dit à l'inconnu qui il était, il lui parla de Liu Xiu comme réunissant tous les charmes et toutes les vertus qu'il désirait à l'épouse de son fils. Il y mit même tant de chaleur que celui auquel il s'adressait ne put s'empêcher de sourire en lui disant « Mais vous êtes un excellent parent, mais puisque vous êtes le cousin de cette jeune fille, pourquoi ne l'épousez-vous pas ?»« Je ne suis pas assez riche, » répondit Dité en rougissant. « J'ai d'ailleurs l'intention de consacrer toute ma vie à l'étude. »« Alors c'est différent, et je n'ai qu'à vous remercier. J'enverrai dès aujourd'hui même solliciter de Madame Liu la permission de me présenter chez elle. » Et si sa fille est telle que vous me l'avez dépeinte, je vous en aurai la plus vive reconnaissance, car je la demanderai en mariage pour mon héritier. Je m'appelle Lin Tianlo et je suis un des membres du Po. C'est vous dire que si cette union se fait, tout mon crédit vous sera acquis. Le Po était à Canton une société commerciale fort riche et toute puissante, qui touchait les revenus des douanes des provinces du Sud, faisait la hausse et la baisse des thés, enfin, une espèce d'état dans l'état. Un peu honteux de s'être adressé sans plus de façon à un aussi grand personnage, le jeune savant s'excusa, donna l'adresse de sa tante et se retira en s'inclinant respectueusement, mais avec des larmes plein les yeux. Après s'être laissé entraîner par un sentiment tout d'abnégation à la démarche qu'il venait de faire, il ne pouvait s'empêcher de songer qu'il allait élever de ses propres mains entre celle qu'il aimait et lui une barrière infranchissable. Aussi voulut-il voir une dernière fois Madame Liu et sa fille pour raconter à la première ce qui s'était passé à la pagode Mi et pour faire à la seconde des adieux éternels. N'ayant pas trouvé sa parente, il retourna le lendemain chez elle. Et ce sont ces deux visites qui avaient éveillé aussi vivement la jalousie de Chou. Cependant, le riche Ling ne perdit pas un instant. 24 heures après sa rencontre avec Ité, il envoya une Meijin de confiance chez la mère de Saul Brodé, et 15 jours plus tard, les deux familles étaient tombées d'accord, le mariage de Liu Xiu et de Ling Lan Tang était décidé. Le père du futur avait été enchanté de la jeune fille, et son fils, à qui la coutume ne permettait pas de voir celle qui allait être sa femme, s'en était rapporté à lui. Il attendait impatiemment que le jour de la cérémonie fût arrêté. Quant à Saul Brodé, après avoir accepté avec soumission l'époux que sa mère lui offrait, tout en étouffant de temps en temps un chaste soupir de regret, en pensant peut-être à son cousin, elle n'en fit pas moins, en vraie fille d'Ève, ses préparatifs de fiancée, pendant que l'amoureux boucher, nous l'avons vu, se laissait bercer par Rose et rêvait qu'il allait être bientôt le mari de sa voisine. Nous savons quel fut son réveil et quelle scène terrible s'en suivit. Toutefois, le lendemain de sa triste découverte, Chu ouvrit sa boutique comme d'ordinaire, et ses pratiques ne purent se douter de ses tortures, tant il parvint à composer son visage. Mais Mekui ne se harda point à se présenter à lui, car elle pensait bien que l'affiche rouge qui qui annonçait le mariage de sa maîtresse, l'avait frappée et elle redoutait sa colère. Plusieurs jours s'étaient écoulés ainsi, quand, un matin que la servante guettait le moment favorable pour s'échapper afin d'aller faire ses provisions dans un autre quartier, elle s'aperçut que la porte et les fenêtres de Chu étaient fermées. Elle s'informa, et on lui apprit que la veille, en réglant ses affaires, il avait annoncé à ses amis qu'il quittait la ville pour toujours. Les uns prétendaient qu'il avait l'intention de se rendre en Amérique. Les autres disaient que, fatigué du pays et d'humeur nomade, il voulait simplement s'établir dans une autre province. Ce fut là tout ce que Rose put apprendre, et ce brusque départ l'épouvanta. Se sentant envahie par la terreur et le remords, elle songea un instant à tout raconter à Madame Liu, mais la crainte des reproches lui fit si bien remettre cet aveu que l'époque fixée pour le mariage de Liu Xiu arriva sans qu'elle eût osé parler. Du reste, le calme s'étant fait un peu dans son esprit, elle pensait que Chu s'était tué de désespoir et sans lui accorder même un regret, elle ne songeait plus qu'à se faire belle pour la fête. Le jour où Saul Brodé monta dans le palanquin qui allait la conduire à son époux, il y avait longtemps déjà qu'à Funxin, on ne songeait plus au boucher de la rue des Batteurs d'Or. Il n'y restait d'autre souvenir de lui qu'une énorme araignée rouge que les gamins du quartier avaient crayonné sur les volets de sa boutique, esquisse hideuse qui souvent faisait tressaillir mes couilles, bien que la pluie l'eût à peu près effacée.